vais rester quelques jours pour t'aider.
J'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce qui te dit que je suis seule?
Je serai si t'es avec quelqu'un. Je te peux rien cacher.
Tout le monde n'est pas diplômé du baratin comme toi.
Tu vas ressasser ça combien de temps?
Tout le temps qu'il me reste.
Non, les grandes phrases. Faut que tu fasses du théâtre, toi.
Ben non, c'est bien aussi le cinéma ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de crise familiale, de statut précaire, de scènes de danse, de music-hall, de Brésil, des favelas et même des grillons avec Mathilde Seigny qui est à l'affiche de Une mère, un film pour lequel elle retrouve 20 ans plus tard sa mère de cinéma, la réalisatrice Christine Carrière qui a lancé la sienne de carrière. Eh bien, tout ça, c'est Benoît Lagan qui va nous dire un peu plus.
Retour sur le parcours et les méthodes d'une actrice qui se révèle au musical et qui a su imposer son rythme d'élocution et son phrasé dans plusieurs registres de camping au temps retrouvé, de Rosine à l'excellent Une mère.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera la costumière Anaïs Roman. Et puis 19h35, plateau camping avec Lia Rodriguez, chorégraphe emblématique de la nouvelle danse brésilienne, actuellement à Paris, pour le workshop camping au Centre National de la Danse de Pantin. Émilie Chaudet.
Jeune danseuse classique à la base qui fait ses armes en pleine dictature militaire et devient une chorégraphe dont la danse mélange questionnement social et problématique du corps, un corps qu'elle voudrait mener, dit-elle, jusqu'à un certain point d'étrangeté.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre d'abord sur le son du jour. Bonsoir Zoé, alors on commence avec ce son du jour et ce sera quoi?
Alors c'est un son d'actualité puisque le théâtre de la Cité Internationale de Paris, on l'apprend aujourd'hui, est menacé. Le directeur de la Cité, qui accueille différents pavillons d'étudiants qui séjournent à l'année, a décidé de retirer la moitié de la subvention au théâtre de la Cité Internationale, évidemment pour cause d'économie. Le sort du théâtre et de ses salariés doit être scellé dans les jours à venir. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, s'est fendu aujourd'hui d'une lettre au directeur de la Cité et à la ministre de l'Enseignement supérieur pour défendre le théâtre. Écoutez-le.
Le théâtre de la Cité Internationale appartient à l'histoire du théâtre parisien et national. Nous avons tous la chance de découvrir des œuvres et des mises en scène exceptionnelles. Et je n'arrive pas à comprendre comment on pourrait brutalement ou insensiblement mettre fin à une telle épopée théâtrale et artistique. Si vous faites disparaître ce théâtre, c'est cette cité qui s'endort, qui s'ensommeille et qui connaîtra une crise d'identité. Donc il y a beaucoup de raisons qui militent en faveur de la préservation de ce théâtre de la Cité Internationale. Et je pense que si chacun y met du sien, on peut réussir à sauver cette institution originale.
Évidemment, nous suivrons ce dossier dans le Journal de la Culture dans les jours qui viennent.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré ce soir à la Cinéfabrique. C'est une nouvelle école de cinéma qui va ouvrir ses portes en septembre prochain à Lyon. Elle accueillera pendant 3 ans des jeunes de 18 à 25 ans et délivrera un enseignement gratuit et, on le suppose, de très haute qualité.
Oui, alors cette école, elle veut carrément être le complément, pas l'alternative, mais le complément de la FEMIS. Elle a été imaginée par Claude Moreira, cinéaste, mais aussi chef opérateur dans une première vie, lui-même originaire de Lyon, avec un but, faire entrer dans le métier des jeunes de 18 à 25 ans. Qui ne sont pas forcément issus de Paris, de la province donc, mais aussi des banlieues, avec ou sans le bac, c'est ça qui est très important, dans une filière d'excellence pour pallier le manque terrible de mixité qui existe aujourd'hui dans le cinéma français. Un manque qui s'explique en grande partie par le fait que les écoles de cinéma sont la plupart du temps privées, très onéreuses, trop chères, et que les plus prestigieuses publiques, donc Louis Lumière et la FEMIS, semblent aujourd'hui hors de portée à ces jeunes. Écoutez Claude Moreiras.
Le processus de sélection, il est basé sur quelque chose où l'écrit n'est pas discriminant. Je pense qu'il y a deux choses essentielles. C'est effectivement la manière dont on sélectionne les gens. Et nous, on a fait tout un concours sur le net qui permet aux gens de rester chez eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de prendre le train pour passer le concours. Aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est tout le travail que l'on fait en amont de l'école. Un travail d'association, de recherche, d'information, de dire « mais si, tu peux le faire ». Je pense qu'il y a quelque chose contre lequel il faut lutter avec force. C'est l'idée de c'est pas pour moi, l'idée de l'autocensure, le dire j'y arriverai jamais, etc. C'est-à-dire qu'avant, les gens se formaient sur le tas, c'est un métier artisanal au départ. Petit à petit, il y a effectivement une espèce de valorisation du diplôme. Moi, j'enseigne parfois à la FEMIS, on se retrouve face à des gens qui ont déjà fait Sciences Po, qui ont un niveau d'études énorme. Et il en faut, des gens comme ça, il en faut. Mais si il n'y a que eux, il y a un moment donné où voilà, c'est sûr qu'il y a un petit souci. Quoi.
Et pour pallier ce manque de mixité, l'école misera sur l'alternance.
Oui, alors après avoir sélectionné 30 élèves donc, mais sur des tests, on l'a dit, pas de culture culture générale, mais de sensibilité, d'imagination. Et après les avoir donc formés au son, ou à la production, ou à l'image, ou au montage, et ou à la réalisation, c'est les matières qu'on y enseignera, l'école les propulsera dans la vie active grâce à l'alternance. C'est Muriel Ménard, productrice à Agathe Productions, la maison de production par exemple de Robert Guédiguian, ou encore de Miguel Gomes.
Et de Une Mère.
Une Mère, qui organisera cette fameuse transition très délicate, qui fait aujourd'hui du cinéma un secteur de l'entre-soi. Écoutez-la.
Ce qui est évident, c'est que dans nos milieux à nous parisiens, et pourtant à Agathe Film, on fait quand même du cinéma un peu, on va dire, politique, d'auteur, mais ne serait-ce que sur un plateau de cinéma, il n'y a pas de mixité, que ça soit du téléfilm ou de cinéma. Allez, on va dire qu'il y a, il y a très très peu de mixité, on est tous entre nous. Mais oui, il faut ouvrir, ça, c'est plus possible de rester comme ça. Nous, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que les ingénieurs du son, les monteurs, les producteurs, on va les prendre en alternance, du coup, c'est sur le terrain qu'ils vont être opérés, et il n'y a aucune raison qu'on ne les garde pas après, ou en tout cas qu'ils commencent à se faire. Le plus dur dans ce métier, on le sait tous, c'est le réseau. Voilà, si on n'a pas de réseau, si on n'a pas un copain, une mère, un beau-père qui travaille dans le cinéma, on est à peu près foutu. Là, on va leur offrir ce réseau-là. Après, à eux de se débrouiller. Mais au moins, ils rentrent, ils mettent un pied dedans, et s'ils sont bons, il n'y a aucune raison qu'ils ne trouvent pas de boulot derrière.
Et par ailleurs, les cours seront assurés par des professionnels.
Oui, justement, c'est le principe à la fois de l'alternance et de ces cours. Donc, l'école bénéficiera de la venue d'intervenants réguliers, qui ne seront pas des profs, mais des professionnels en activité. Pour les cours théoriques, il y aura plusieurs professeurs de cinéma de l'université Lyon 2 et une équipe donc de direction avec là aussi des professionnels en activité. Et parmi eux, le président, qui n'est autre que le réalisateur, nombreuses fois césarisé, Abderrahmane Sissako.
Pour moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans le projet, je dirais d'abord, c'est l'école. L'école est quelque chose d'important pour moi, parce que c'est l'école qui m'a donné une chance véritable d'être cinéaste. Parce que n'ayant pas eu cette culture cinéphilique, où on peut apprendre beaucoup de choses à travers le cinéma des autres, et l'école m'a permis d'être, à un temps donné, m'a vraiment mis dans la confrontation. Et donc, quand on entend parler d'une école qui va naître, moi, ça m'interpelle. Et lorsque aussi cette école se situe en dehors de Paris, qui est, comme disait Cocteau, cette ville qui ne cesse de parler d'elle-même, voilà. Et je trouve que la diversité, la décentralisation de ce métier en quelque sorte, ne peut faire que du bien au cinéma français.
Et voilà, alors en cette première année, alors que l'école et le concept d'école est toute jeune, elle est à peine connue, le concours a déjà attiré 400 candidats qui seront sélectionnés dans les semaines qui viennent.
Peut-être une réaction de notre invité, Mathilde Seigné.
Je trouve ça formidable, parce que...
Vous l'avez ressenti, vous, cette absence de mixité, justement, sur les plateaux de cinéma ?
Pas vraiment. Je me rends pas compte de ça. Parce que moi, je fais autant du cinéma, enfin, moins d'auteurs que là, Une Mère, oui, mais je fais plus de cinéma populaire, donc je me rends moins compte. Enfin, qu'il y a plus d'argent. Ce que je ressens beaucoup, c'est effectivement le cloisonnement cinéma d'auteur et cinéma, cette espèce de... Mais je trouve ça formidable parce qu'effectivement, moi, je fais partie des gens qui pensent que ça s'apprend. Et j'ai eu un beau-frère, Roman Polanski, qui a fait l'école de Lodz, là. Et c'est vrai que je trouve que maintenant, il y a un peu n'importe qui réalise des films, quoi. C'est un peu à tout va. Et je trouve que, bon, les écoles, c'est bien. La FEMI, c'est très élitiste, je crois. Très difficile. Donc, si ça peut ouvrir à des gens, des jeunes, des banlieues, qui penseraient jamais à aller à la FEMI parce que c'est pas à leur portée, je trouve ça très bien.
Et l'on poursuit avec les brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec cette information livrée aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG qui surveille la situation en Syrie, qui nous indique que la ville antique de Palmyre aurait été truffée d'explosifs par l'État islamique qui en a pris le contrôle il y a quelques semaines. On ignore s'il s'agit de la faire exploser ou simplement de piéger l'armée de Bachar al-Assad qui mène des interventions aériennes dans la région en ce moment.
Le chef d'orchestre russe Kirill Petrenko prendra la direction du Philharmonique de Berlin en 2000.
En 2018, et oui, voilà. Il va prendre la tête de... Il apprend la suite de Simon Rattle. Ce chef russe a 43 ans. Il a déjà eu l'occasion de diriger l'orchestre en tant qu'invité en 2006, 2009, 2012. Orchestre qui est considéré comme l'un des meilleurs du monde. Et c'est une annonce très attendue puisque je rappelle que ce sont les musiciens qui choisissent leur directeur musical et qu'ils avaient mis plusieurs semaines à se mettre d'accord.
Un mot sur la Comédie française qui va accueillir Rebecca Marder, 20 ans.
Et oui, c'est la plus jeune pensionnaire de la troupe des 59 comédiens. Plus jeune encore que Pierre Niney quand il était entré en 2010 à l'âge de 21 ans à la Comédie française. Elle a fait ses classes à l'école du Théâtre national de Strasbourg. Sur les planches. Elle a joué en 2012 dans Entrer et fermer les portes. Elle a surtout été formée à la télévision, avec notamment Emma, et au cinéma dans Ceci est mon corps ou encore dans La Rafle.
Et la dernière ?
La dernière, c'est encore une histoire de cinéma mainstream cette fois-ci, et c'est pas peu de le dire, puisque là encore, et en plus, ça concerne encore Sony. Sony, je vous en ai beaucoup parlé cette année, puisqu'il y a eu un hacking de ce fameux studio au printemps, à l'automne dernier. Et là, cette fois-ci, c'est Wikileaks qui dévoile aujourd'hui une information qui est relative aux échanges entre Sony et Marvel. Marvel, vous savez, c'est ce studio de comics américain. Et donc, il dévoile, Wikileaks, toute une série de mails qui ont donc uni le studio à Marvel pour définir, se mettre d'accord sur le rachat de l'énorme blockbuster qu'est Spider-Man. Et on y découvre que, eh bien, il y a des clauses très restrictives pour que Sony puisse acheter Spider-Man. Spider-Man doit être un homme, il doit être caucasien, hétérosexuel, oui, absolument, dans toutes les adaptations. C'est à ce titre-là que Sony pouvait acheter les droits. Il ne doit pas avoir de relations sexuelles avant 16 ans, il ne doit jamais fumer ni boire de l'alcool à l'écran, encore moins vendre de la drogue. Voilà, ça c'est quelques-uns des critères retenus justement pour Spider-Man. Alors, la question se pose, puisque Spider-Man va peut-être être interprété, enfin est en train d'être interprété par un acteur hispanique,
oula,
ça rentre toujours en caucasien ou non. Pas. C'est une question qui nous montre un petit peu quelle peut être la teneur des échanges dans les studios, alors que, vous le savez peut-être, un gros débat anime en ce moment les fans de nos amis, fans de James Bond, puisque James Bond, il y a un homme qui est pressenti pour prendre la suite de Daniel Craig et il est roux. Et c'est un vrai enjeu en ce moment. Le studio, on le sait, débat sur est-ce que James Bond peut ou doit être roux. Ça n'est vraiment pas gagné.
Mathilde Seigny, vous êtes d'accord? Non.
Non.
Non,
mais, je pense que c'est pas possible.
Mais il y a des super bons.
Il y a des choses qui sont pas possibles, ça n'est pas possible.
C'est Journal de la Culture.
Ce Journal de la Culture, vous pouvez le retrouver sur le site de France Culture. Vous pouvez le podcaster, le réécouter pendant 1000 jours, Laurent.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Mommy, avec vous Mathilde Seigné, comédienne, beaucoup de cinéma, du
Faut
théâtre.
Que je parle aussi. Québécois, pour
bah, vous pouvez,
je
vous auriez un
faire
fan.
Un Québécois, si ça vous, ça vous dit, je fais un Québécois.
Alors, comédienne au cinéma et au théâtre, dans tous les registres, la comédie Vénus Beauté de Tony Marshall, Camping 1 et 2 de Fabien Antoniente, cinéma d'auteur Le Temps Retrouvé de Raoul Ruiz, Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominique Moll, les films de Claude Miller, et puis des grands succès populaires, je pense à Une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion. Mercredi prochain, vous retrouverez la cinéaste de vos débuts, Christine Carrière, avec qui vous aviez tourné Rosine en 94. Ça veut dire que 20 ans plus tard, eh bien, aujourd'hui, vous êtes une mère sous sa direction. On est dans la veine actuelle du cinéma social. Vous êtes mari, profession double, serveuse dans un restaurant, cantinière dans un lycée professionnel, situation familiale difficile, un fils de 16 ans, Guillaume, violent, que vous élevez seul, à quelques mètres de votre ex-compagnon. Bande-annonce.
Moi, je veux faire des kilomètres, des milliers de kilomètres. À pied, en avion, en train, n'importe. Que du silence, juste le bruit du vent. Et je voudrais pas de gosse, être femme célibataire, sans enfant. Quoi, on s'en fout, c'est un jeu, on peut dire ce qu'on pense.
Ouais.
J'aurais voulu pas avoir de gosse, être libre et riche. Mon fils est quelqu'un de mauvais, vous le savez très bien.
Je n'avais rien, juste des menaces. Il en faut beaucoup plus pour qu'une mère porte plainte contre son fils.
Depuis le début, tu fiches ma vie en l'air et tu continues jusqu'à quand?
Je m'en fous de ta vie, moi!
Mais moi aussi, maintenant, je m'en fous de ta vie!
C'est pas de mon âme faire!
Franchement, je sais plus. On me dit que t'es irrécupérable, mais tu te rends compte d'entendre ça, irrécupérable?
La ferme, je te dis.
Non. Il fait connerie sur connerie. Je sens que ça s'empire. J'ai peur que ce soit grave maintenant, très grave. Comment il peut se payer des trucs pareils?
Votre fils et ses copains ont été vus sur la D9. En ce moment, il y a un homme entre la vie et la mort qui aimerait bien comprendre ce qui lui arrive lui aussi.
Pourquoi on aurait fait ça? T'es malade.
C'est toi le malade.
Mais rien, comme d'habitude, je vais laisser faire. La reine des connes est disponible pour tout le monde. Qui a besoin de la reine des connes?
On pourrait peut-être se dire d'autres choses. On pourrait, je sais pas moi, faire un enfant à nous deux.
Arrête de m'énerver avec ça. T'es con et t'es moche.
J'ai réfléchi toute la nuit. On doit faire équipe maintenant, toi et moi.
Tu m'offres quoi, méchant?
La paix, ça t'intéresse?
Mathilde Seigné, le film est signé Christine Carrière, ça fait 20 ans. Vous l'avez rencontrée en 94 pour Rosine. Vous vous souvenez, à l'époque, du casting que vous aviez dû passer avec elle?
Mais je me souviens de... Je tournais une toute petite chose dans le film de Claude Miller, Le Sourire, dans lequel il y avait ma sœur aînée en rôle principal. et je jouais une danseuse, mais d'un niveau moins. Donc je prenais des cours, je danse comme une patate, et donc il y avait une affiche, Christine Carrière cherche sa Marie. Et elle était allée voir mon agent qui lui avait à l'époque pas du tout parlé de moi. Et moi, j'ai envoyé une photo de mon côté.
Ouais.
Comme ça, en me disant, j'ai rien à perdre. Et c'est une photo qui était pas terrible, mais elle, ça lui a tapé dans l'œil. Et donc, j'ai fait le casting. Et j'avais pas du tout le physique pour le rôle. J'étais blonde. Bon, je faisais plus parisienne. C'est rigolo.
Ouais. Et puis, ça a marché. Parce qu'elle vous retrouve.
Ça a marché. Elle a vu quelque chose. Elle dit dans mes yeux qu'elle a repéré dans mon regard une fragilité. Et si j'avais pas fait Rosine, je dis toujours, je serais peut-être pas là ou autrement. Parce que c'est vrai que ça m'a vraiment lancée.
Quelle a été la première scène de tournage pour Une mère?
Je crois que c'était une petite scénette où je dansais. Pas quelque chose de compliqué, mais justement, moi.
Encore danser, ouais.
Oui, non, mais je devais danser un peu dans ma cuisine.
Dans la cuisine, c'est les premières scènes à peu
voilà.
près.
Voilà, et ça. Moi je me rappelle en tout cas d'une chose, c'est que 20 ans plus tard, de retrouver quelqu'un qui vous a lancé, je peux vous dire que ça vous fout un sacré coup d'émotion. Hein. Ça m'avait vachement troublée. Ça m'a... J'ai eu l'impression d'être...
Oui, il y a quelqu'un qui tente d'entrer, ou je ne sais pas, en tout cas on entend d'autres... Ah non, peut-être, on va fermer la porte juste derrière nous.
Et voilà, et qui... Oui, ça c'est... Je sais pas, c'est très particulier. C'est comme une boucle qui se ferme. Voilà.
Vous dites qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous avez conscience de les faire. Et dans ce film, vous évoquez une scène de danse, justement. Peut-être
oui,
c'est
oui,
la scène
oui,
du début, où l'on vous voit danser dans la cuisine. De quel ordre était la difficulté pour les scènes de danse, peut-être?
Je sais pas, en fait, c'est très bizarre, parce que je danse plutôt bien en rigolant à la maison... Après quelques coupes de champagne, là, je fais des shows absolument hallucinants. Même je fais Johnny. Enfin, c'est des trucs très, très spectaculaires où je fais des grands écarts. On sait pas pourquoi, bon. Et puis, quand je dois, devant une équipe, faire trois pas de danse avec ça, ça...
Des gestes que vous êtes en train de faire.
Ouh, j'ai tarte. Je suis très tarte. C'est marrant, hein. Comme si c'était une timidité ou pudeur. Je suis pas très, très à l'aise avec mon corps.
Et pourtant, vous êtes physique. Plutôt.
Je suis très physique, mais
très sportive.
Je suis pas très à l'aise avec mon corps quand il y a une caméra. Alors que je suis très à l'aise devant une caméra pour plein de choses, beaucoup plus dures que ça. Hein. C'est très bizarre, je sais pas.
Benoît Lagan.
Alors pour fêter ses 20 ans de cinéma, notre réalisateur Thomas Beau a monté des extraits de quelques-uns de vos films sur plusieurs registres. Montage.
Il s'est approché lentement.
Il fait connerie sur connerie.
Avec son grand poignard en peau de bite. Qu'est-ce qui se passe au juste?
J'ai peur que ce soit grave maintenant, très grave.
Tu sais pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais?
Y a qu'il faut que tu te bouges le cul. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, tu comprends? Tu sais très bien que j'en avais marre de crapahuter.
Pas d'homme, pas d'enfant. On veut pas, mais les reines de la nuit, cette fois, c'est terminé.
C'est pas un problème, je trouve une solution.
T'es sûre que ça va?
Tu le sais très bien.
On pouvait plus continuer comme ça.
Comme quoi, tout finit par se savoir.
Bon. Tout ça demande réflexion. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi?
Je vais lui dire au revoir, on part demain pour Ibiza.
Pardon?
Le problème avec toi, c'est que tu t'intéresses pas aux autres.
Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend?
Mon mari est un bouffeur de minous. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les bulots, mais avec les autres, c'est les minous.
Tu mets de la mayonnaise aussi?
Non, tu vas m'écouter! T'es dingue ou quoi? Ouvre!
Qu'est-ce qui se passe?
Vénus Beauté, Tony Marshall, Nettoyage à sec, Anne Fontaine, Camping, Fabien Antonente, Hirondelle a fait Le Printemps de Christian Carion, Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominique Moll, Palais Royal de Valérie Lemercier et Une mère de Christine Carrière.
C'est hyper bien fait, hein?
Ben ouais.
C'est étonnant, mais on voit les changements de voix.
Alors justement, quelque chose sur ce changement de voix. Il y a quelque chose qui reste quand même, c'est le débit. Extrêmement rapide, très séquencé chez vous.
Oui.
Ça vous vient de vos débuts?
Non, c'est probablement de mon grand-père, ça, Louis Seigné, oui, qui avait un débit un peu comme ça.
Au théâtre. Familial.
Familial. C'est un... Je zozote un peu aussi, j'entends. J'ai un zozotement, un truc...
J'avais pas du tout repéré ça.
Et il y a un peu ce débit, c'était Lelouch qui m'avait dit, j'ai un peu le débit qu'avait Girardot, parce qu'il avait parlé comme ça, un peu comme ça, très vite. Bon, enfin, je limite pas mal.
Pas mal.
Oui, pas mal. Ouais, comme ça. Et voilà, et je vais vite, ça va vite. Voilà. Mais j'entends, je zozote, enfin, c'est épouvantable.
Et donc, sur le changement de voix, qu'est-ce que vous avez repéré dans
ce moment-là ? Je sais pas, il y a une voix qui tout d'un coup est gamine, violente, il y a plein de trucs. Voilà, là, je vais m'allonger sur un fauteuil.
À propos de rythme de jeu, je disais que Christine Carrière vous a obligé à gommer les tics d'actrice, et c'est vous qui le dites. Quels seraient vos tics d'actrice ?
Non, je pense que tous les acteurs, toutes les actrices prennent des tics au fur et à mesure d'une carrière. On a des tics, nous dans la vie, vous en avez, on en a. Donc à l'écran, on en a. On doit dans le nez, des trucs. Bon. Et c'est vrai, quand on tourne énormément, et qu'on n'est pas toujours regardé d'une belle manière, et qu'on n'est pas pris toujours pour des bonnes raisons dans les films, les metteurs en scène vous font un peu de la chaîne, quoi. On vient de l'usine, allez hop, on tourne. Bon, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on n'est pas toujours très bien, et pas toujours, les films sont pas très bons. Et donc, on prend des tics qu'on nous laisse passer. Moi, j'ai tendance à fermer ma bouche, faire une moue, parce que je vois tout, hein, je suis plutôt assez critique et tout. Christine, elle
avait repéré ça?
Oh, bah, je les avais déjà sûrement pour Rosine et ça, mais Christine, elle est très obsédée, elle a raison sur l'abandon des visages et le fait que, en fin de compte, quand on a des tics, on voit que ça, donc on oublie le personnage, ça déroute, ça dévie le... Enfin, j'imagine, hein. Mais peut-être que j'en ai quand même dans une mer, mais. De toute façon, on a des tics de nous.
Au-delà des méthodes de Christine Carrière, je me demandais si vous étiez plutôt à l'aise avec un réalisateur ou une réalisatrice qui multiplie les prises, ou vous préférez ceux qui travaillent sur les premières.
Ça dépend des films, ça dépend des réalisateurs. Je suis très à l'aise avec les réalisatrices, souvent. J'ai beaucoup tourné.
Beaucoup tourné avec
elles. Énormément. Ouais. Bah, elles m'aiment bien et je leur fais pas peur.
Faites peur aux hommes.
Un petit peu, oui.
Par exemple.
Oui, quand ils me connaissent pas, ils ont les chocottes. Oui.
Raoul Ruiz avait peur de vous ?
Oh, bah, Raoul Ruiz, non, mais j'ai fait rien, j'avais un petit truc.
Oui. C'était.
Christian Carillon, il n'avait pas du tout peur de moi. Non, il y en a qui n'ont pas du tout peur de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien tourner avec des femmes, parce qu'on a une complicité entre femmes. Et puis, j'ai oublié le déroulement de votre question, c'est-à-dire, je suis partie sur un truc.
Non, je me demandais si vous préfériez tourner avec peu de prises. Que vous étiez meilleur dans les premières.
Ça dépend.
Que dans la
Christine
répétition.
Christine dit que non, je suis pas. Christine, elle pense que je suis pas des premières prises et Miller disait que j'étais des premières. Ça doit dépendre de. Je suis un plat du jour, hein, donc ça doit dépendre. Je suis un animal un peu, hein, vous savez, c'est pas toujours égal. Donc, mais non, j'aime. Je peux être bien dans les deux troisièmes, quoi. Mais la première, non, parce que la première, je suis pas du tout concentrée. Parce que je fais quand même pas mal la fofolle.
Sur les plateaux.
J'ai un très très gros défaut qui est un défaut, une qualité. Ça amuse beaucoup les équipes, justement. On parlait des équipes, des techniques tout à l'heure, mais c'est que je les fais rigoler parce que je suis. Je suis très 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 indisciplinée.
Vous êtes issu d'une famille de théâtre, hein, vous le rappeliez tout à l'heure, votre grand-père Louis Seignier, votre tante Françoise Seignier était sociétaire à la Comédie Française, parents décorateurs, décorateurs aussi pour le théâtre ou pour
du
le
tout,
cinéma
du tout,
Non,
du tout,
décorateur.
Du tout. Mon père était créateur de papier peint, il dessinait des très jolis papiers peints, non.
Donc c'est pas dans cette
meubles,
dimension-là.
Non, pas du tout.
Quand vous commencez, vous, quel type d'actrice vouliez-vous être à l'époque ?
Moi je voulais pas être actrice, moi déjà. Je voulais chanter alors.
Faire des musicals ?
Oui. Moi, j'adore le musical. Moi, j'aimais Beko. Le musical me fascine toujours. L'Olympia. Moi, je voulais faire l'Olympia, en fait. Pour moi, c'était un métier. C'était l'Olympia. Hein, voilà. Je disais à mon père, moi, je vais faire l'Olympia. Puis c'est tout. Hein. Que ça dans ma vie. Hein. Donc, non, moi, l'Olympia. Et puis la scène et les imitations. Et ce que fait Laurent Gérard, tout ça. Moi, c'était ma passion. Je suis fascinée par le musical. Donc, je voulais pas du tout être actrice. Donc, aucun type d'actrice, je savais pas du tout. J'ai même été étonnée que ça marche. Et en plus, après, avec mon caractère et tout, je suis étonnée
que ça continue
dans votre studio. Je suis étonnée qu'on m'invite encore, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez pris des cours de chant, justement, pour cette formation de musical?
Oui, une femme qui s'appelait Madame Charlot, qui était la professeure de Johnny et de Sardou. C'était une femme très, 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 très célèbre dans le monde de la chanson. Alors évidemment, j'avais pas vraiment la voix ni de Johnny ni de Sardo, mais j'avais une jolie voix que j'ai perdue maintenant parce que j'ai plus beaucoup de voix. Mais j'avais une jolie voix et je chantais plutôt juste. J'aurais tout à fait pu faire une carrière de chanteuse, mais c'était pas tellement chanteuse que je voulais faire, c'est le musical.
Mais qu'est-ce que vous entendez par musical?
C'est de la chanson, mais c'est les imitations.
Les imitations, d'accord.
le show, quoi, la fofolle, voilà, la liberté de dire ce qu'on a envie de dire sans forcément être emmerdé. Voilà.
Du one man show, par exemple.
Oui, du one woman show, tous ces trucs-là, quoi. Oui. Mais bon, j'ai pas fait. Hein.
Vous aviez même un projet. vous aviez même un projet, je crois, à un moment donné avec comment il s'appelle.
Muriel Robin.
Muriel Robin.
Oui, ben alors moi j'ai tout.
Pour écrire pour elle ou être sur scène.
Non, elle m'a dit un jour, j'ai fait beaucoup rire Muriel et c'est très dur de faire rire Muriel, qui est quand même la femme la plus drôle du monde, et j'arrive à la faire rire. Donc un jour elle m'a dit qu'elle me donnerait un petit coup de main pour un spectacle. Mais je le ferai jamais. Hein. Tous les jours j'ai envie de le faire, je le ferai jamais.
Il n'y a pas eu le musical, mais il y a eu le théâtre. Dès vos débuts, vous avez joué Oncle Vania de Tchekhov, de nombreuses pièces du répertoire. Et puis après une longue absence, il y a eu Nina d'André Roussin. Vous savez ce qui a longtemps freiné ce retour sur le plateau de théâtre?
Il y a eu l'éducation de Rita, avec Frisson. Et après le cinéma qui m'a complètement happé, quoi. Il y a eu le succès d'une hirondelle, là ça a été un truc de fou. Et après, j'ai pas arrêté de tourner, j'ai eu des occasions de refaire du théâtre, mais pas les rôles. Et Rita et Nina, je fais que des trucs en A au théâtre, hein, donc s'il y a Martha, je fais tout en A. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Nina, qui est une pièce qu'on rentre de tournée avec François Berléand et François-Vincent Telly, on a énormément, énormément rigolé. Et la pièce est absolument admirable. Et quand Bernard Murat m'a proposé Nina, j'ai dit, mais c'est épouvantable. Et en fait, c'est écrit en 49 par un auteur qui était une énorme vedette de son vivant et qui a été complètement oublié. Et grâce à nous, d'ailleurs, maintenant, André Roussin se rejoue avec Michel Faux. Alors, ça me fait rigoler parce qu'on a relancé la mode Roussin. C'est une écriture hallucinante. C'est un vaudeville, apparemment, comme ça, en forme, avec un fond et des personnages de liberté. Nina, elle était démente, quoi. Moi, j'ai adoré Nina. Elle lisait que des horreurs sur les hommes. Je m'excuse. Pas sur vous.
Comme à tous nos invités, Mathilde Seigneur, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
Dormez pas, non.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi. Qu'est-ce qu'on entend?
C'est cigales, les grillons.
Ouais. Cigales. Pour quelle raison?
Ah, je sais pas. Je peux pas vous dire. C'est un son. Il y en a eu plusieurs hein, quand on m'a demandé. Mais il y a aussi les départs des paquebots. J'adore ça. Là, quand ils s'en vont.
Mais vous êtes vraiment un talent d'imitatrice. Mais excellent.
Qui quitte le port comme ça. Il y a des sons comme ça. Pour moi, c'est l'enfant. Je peux pas vous dire. Et les cigales, les grillons. C'est le petit rosé, comme ça, quand il fait chaud. Et puis, j'adore la Provence. C'est une ambiance que j'adore. Voilà, donc, je sais pas, c'est une émotion, ces petites cigales.
Parfait.
Le rendez-vous. Extérieur.
Extérieur.
Mathilde Seigné et Lia Rodriguez qui nous a rejoint. On vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait de Manu Farine. Et ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est Anaïs Roman. Elle est costumière. C'est une des plus récompensées du cinéma français. Elle a été dernièrement césarisée pour le Saint-Laurent de Bonello. On lui doit aussi les costumes du journal d'une femme de chambre de Benoît Jacquot ou de Valley of Love de Guillaume Niclou. Questionnaire costume, Anaïs Roman, Manu Farine.
Le costume de votre enfance. Beaucoup de déguisements. J'ai eu la chance de pouvoir énormément me déguiser quand j'étais enfant. J'avais accès à un grenier merveilleux dans lequel étaient entreposés des vêtements qui allaient de 1880 à peu près aux années 30.
Premier costume ?
Le premier film pour lequel j'ai fait des costumes. C'est un film de Philippe Collin qui s'appelait Les derniers jours d'Emmanuel Kant. Je me souviens qu'il y en avait un qui avait beaucoup d'importance parce qu'il fallait que la lumière joue à travers ce costume. C'était la scène finale du film où Kant devait un peu s'évanouir comme ça dans la lumière, dans une forêt. Et le costume devait raccorder avec une statue d'Emmanuel Kant qui était posée sur un socle. Donc j'ai fait ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un cache-poussière, c'est-à-dire un très très long manteau, très léger. Voilà, ça c'est le premier costume marquant dont je me souvienne.
Le film qui vous a donné envie de faire ce métier?
Oh, énormément de films. Je crois tous les films de Visconti que j'ai pu voir m'ont complètement fascinée. Les films de Bellocchio, mais surtout parce que j'ai tellement admiré le travail de Piero Tosi, qui est pour moi un des plus grands costumiers. Il fabrique des personnages, il fait vraiment des personnages avec des costumes, c'est-à-dire qu'il travaille le moindre petit détail, les coupes sont toujours parfaites, j'ai l'impression qu'il connaît toutes les modes, les matériaux parfaitement bien, les coupes, et qu'il a un grand amour des acteurs parce qu'il les magnifie toujours.
Le siècle que vous aimez habiller ?
tous les siècles. Je crois que j'ai pas de préférence. Il y a un siècle que je rêve d'habiller, que je n'ai jamais fait, je crois que c'est le 15e siècle. À chaque fois que je vois des peintures de cette époque ou des enluminures, j'ai vraiment toujours, je me dis, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais faire cette époque.
Première erreur de costumière ou de créatrice de costume?
Je crois que je me suis un peu plantée sur des couleurs d'un costume pour Karine Viard, la pauvre, dans un film de Diane Curis qui s'appelait Les enfants du siècle sur Sand et Musset, et Karine Viard incarnait une actrice de théâtre. C'était soit carrément plus vulgaire, enfin le beau vulgaire, ça peut être très beau le vulgaire, soit avec une harmonie un peu plus subtile. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime pas trop regarder maintenant.
L'étape que vous aimez tout particulièrement dans votre métier?
Les derniers essayages, quand on met ensemble tous les accessoires, voilà, quand on cherche les volumes des coiffures, les chapeaux, tous les petits accessoires avec lesquels les personnages, les acteurs vont vraiment jouer.
S'il ne devait rester qu'un seul vêtement dans votre garde-robe?
Des très très bonnes sandales, faites à la main. Avec un cuir bien doux, bien patiné.
Anaïs Roman, merci.
Peut-être un commentaire, Mathilde Seigné, vous qui travaillez
c'est
régulièrement.
C'est une très, très grande costumière. J'ai jamais travaillé avec elle. Je sais qu'elle a un talent fou.
Vous travaillez souvent avec la même, Jacqueline Bouchard.
Jacqueline Bouchard, oui.
Dans Une mère, dans Betty Fischer, Danse avec lui, Les Campagnes, dans Trésor.
C'était la costumière de Claude Miller.
Et que vous avez retrouvé de film en film.
Oui, que j'ai gardé parce que...
Que vous avez gardé, c'est-à-dire que vous demandez à ce qu'elle soit sur les tournages avec vous.
Quand c'est possible, oui, parce que j'aime bien la manière dont elle... c'est une école comme ça, comme Naïs là, c'est-à-dire très très raffinée. Et j'aime bien. Ce qui est très difficile, moi, je fais quand même beaucoup de films modernes, ouais. Pas du tout d'époque. Je me demande si c'est pas plus difficile, en fin de compte, d'arriver à styliser un film comme Une mère. Quoi. C'est presque plus difficile de faire les costumes d'une mère que de trouver des robes. Voilà. Donc,
Par exemple, pour Une mère, qu'est-ce qu'elle a travaillé avec vous?
Ben, c'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui décide, j'ai pas vraiment un avis là-dessus, mais ce que j'aime bien, je crois, mais peut-être des gens diront le contraire, que dans Marie, dans Une mère, elle est pas vulgaire, elle est pas plouque.
Non.
Elle est pas marquée populaire, marquée nord, marquée région. C'est une femme comme tout le monde, elle a un peu de poids, Christine tenait à ça, c'est des femmes qui s'occupent pas, font pas de sport, c'est pas, on n'est pas à Paris et tout ça. Mais j'aime bien les costumes parce que c'est pas un truc où on sort en se disant les costumes c'est trop misérabiliste quoi. Elle a de temps en temps des jolies robes, voilà. C'est très difficile de faire des costumes contemporains en fait.
Avec Ilia Rodriguez c'est plus facile parce que la plupart du temps ils sont
des danseurs.
Danse,
surtout. Là, j'en ai besoin. Hein.
Le rendez-vous.
Plateau Camping, c'est avec vous, Lia Rodriguez, danseuse et chorégraphe brésilienne. Eh non, c'est avec elle.
Ah, je me disais, c'est bizarre.
Vous êtes actuellement à Paris pour un workshop au Centre National de la Danse de Pantin, dans le cadre de l'opération Camping, coordonnée par la chorégraphe Mathilde Meunier. Et vous proposez comme point de départ, donc, à vos étudiants, des questions qui se posent à vous tous les jours à Rio de Janeiro, puisque vous travaillez dans une favela. Quels sont les types de questions que vous rencontrez tous les jours là-bas?
Bon, je m'excuse parce que je ne suis pas française, alors mon français peut être un peu comme ça.
Je vous connais, il est excellent. Ça
va. Oui. Bon, je pense que quand un artiste est confronté avec une réalité si dure que celle-là qu'on rencontre dans une favela, surtout cette favela spécifiquement, Tamaré.
Favela des Marais,
oui.
Qui est une des plus violentes. Hein.
Oui, une des plus grandes. On a 135 000 habitants. Alors, quand j'ai choisi d'être là, je sais que les questions sont énormes, du quotidien même. Et pourquoi je fais ce que je fais, de quelle façon, pour qui, est-ce qu'il y a un sens pour faire ça dans un monde comme ça? Tout ça, ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Hein.
Vous avez fondé votre compagnie à Rio de Janeiro en 90. 15 ans plus tard, vous êtes installé donc en 2005 avec vos danseurs dans cette favela, donc l'une des plus grandes et des plus violentes de la ville. Vous y avez aussi ouvert une école. Qu'est-ce que cette implantation a changé dans votre danse et dans la relation des habitants avec votre propre production?
Comme tu as bien dit, c'est dans les temps qu'ils ont construit, surtout quand on parle d'un projet d'éducation. Alors, ces 10 ans ont beaucoup changé ce qu'on a pu faire dans cette favela. Et d'abord, je pense que ce qui a changé dans mon travail, je ne peux pas dire avec des mots, mais je pense que je suis sûre qu'il y a quelque chose qui a complètement changé parce que moi-même, j'ai changé. en allant là-bas, en essayant d'implanter un projet là-bas, tout ça change. Mon rapport avec les autres, mon rapport avec les mondes, mon rapport avec l'art. Je pense alors que mon travail a changé, mais surtout moi-même, j'ai beaucoup changé.
Est-ce que, par exemple, la nudité de certains de vos spectacles, assez frontaux, même assez violents, c'est quelque chose que vous avez mis du temps à pouvoir mettre en place ? J'imagine que ce n'est pas tout de suite qu'on peut mettre en place ça quand on arrive dans un tel contexte.
C'est possible de mettre en place tout de suite. J'ai fait ça. C'était un des premiers travaux que j'ai montré là-bas. C'était un qui les danseurs sont nus. Et je vais te dire une chose, qu'il n'y a pas de différence entre les publics, parce que je montre mon travail partout, ouais. En Europe, partout. Au Brésil, dans une petite ville au nord et tout. Et je pense que, c'est, que si tu sais bien placer les choses, je pense que les gens vont sentir et pouvoir voir les spectacles naturellement.
Et comment les institutions culturelles du pays ont regardé votre pratique depuis des années ?
Comme toujours au Brésil, pas d'argent. J'ai survécu surtout avec l'argent que j'ai gagné en Europe, surtout en France.
Avec vos tournées, avec vos spectacles.
Avec les coproductions et tout ça.
Une question, Mathilde?
Non, j'ai surtout en France, ça me fait rire.
Ben oui, ouais, parce qu'en fin de compte, le travail a été montré beaucoup en France, notamment au Festival d'automne.
Mais il y a des danseurs, tes danseurs, tu les recrutes dans, où en fait?
Au Brésil, j'ai fait des auditions.
Et dans des favelas aussi ou pas?
Oui, mais ils suivent.
Il doit y avoir des gens doués, sûrement.
Oui et non, parce que comme je travaille, il faut être très préparé pour entrer, ce sont des professionnels, alors il faut faire une audition, passer une audition. Alors, il y en a qui ne sont pas encore bien, comme partout. Mais il y en a au moins deux danseurs qui sont nés et qui habitent dans la favela.
Ah, c'est bien.
Oui.
Émilie Chaudet.
Lia Rodriguez, vous avez créé votre première compagnie de danse en 1977, c'était le Grupo Andanza. Quel type de danse est-ce que vous vouliez défendre à cette époque en pleine dictature militaire au Brésil?
Moi, je pense que c'était surtout... Être militant à cette époque, c'était pas facile. Moi, je fais partie, j'étais à l'université d'histoire. Alors, je fais partie de tous les mouvements des étudiants. Et par contre, j'étais aussi artiste. Et je pense que c'est un enjeu difficile de dire que mon travail, c'est mon drapeau, dans ce sens de faire un travail pamphlétaire, on peut dire comme ça. Mmh. Et moi, j'ai milité pour la danse aussi. Comment avoir un statut de danseur, comment avoir plus de place pour montrer mon travail. Je pense que dans ce sens-là que je travaillais à cette époque.
Quelles étaient vos références chorégraphiques justement à cette époque? Vous avez d'abord eu, vous, une formation ballet classique à l'âge de 6 ans au Brésil. Quelles étaient les références pour construire la danse que vous vouliez dans ces années-là, en 70?
Et surtout, il y avait des gens qui allaient à New York. Et qui venait avec la formation, il y avait Toile à Tarpe, Louis Falco, c'était plutôt ça que j'avais le rapport avec. Et juste après, j'ai étudié avec Célia Gouveia, qui a étudié dans les Moudras, l'école de Béjar.
Vous n'avez jamais pris de cours de danse, vous, Mathilde Seignier?
Non.
Bah, même pas des cours de jazz, tout ça?
Non, mais je suis pas très 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 doué.
Pas vraiment, parce que hier en fait c'était presque un festival Mathilde de Séné. Hier il y a un film qui est passé sur France 2.
Ah, je danse.
Tout pour plaire. Bah vous dansez, mais pas si mal que ça.
Oui, non.
Un truc disco. Bien.
Là, comme ça et tout ça. J'ai aucun sens de la synchronisation des gestes. Il y a qu'une chose que je fais très très bien. Je pense pas que ça va t'intéresser. C'est les Claudettes.
C'est quoi?
Je fais extrêmement bien la Claudette, cher ami.
C'est quoi?
C'était les danseuses qui dansaient derrière Claude François,
tu sais, ce chanteur.
Très populaire. Ben non, elle était au Brésil. Il n'a pas tout traversé.
Il faisait des trucs comme ça et tout. Et ça, je fais très, très bien.
Émilie.
Vous étiez au Brésil, mais vous avez quitté le Brésil au début des années 80, où vous avez dansé 2 ans donc en France avec Maggie Marin. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée?
Je l'ai rencontrée parce qu'elle a fait cette même école Moudra avec cette professeure que j'ai eue au Brésil.
Moudra, c'était l'école donc à Bruxelles.
Oui. Et alors, quand je suis venue en France, elle m'a donné un numéro de téléphone. Voilà, quand tu arrives, tu appelles Maggie, qui est un ami. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Et c'était tout de suite une belle rencontre. Et j'étais avec elle 2 ans et j'ai fait la création de Maybe.
Et qu'est-ce que ça a changé dans votre danse, justement, de travailler avec Maggie Marin, qui était la figure emblématique, une des figures emblématiques de la danse d'auteur des années 80, presque une danse théâtre d'ailleurs, hein,
oui,
qui était assez rare en France.
Je pense que ça a changé surtout ma perception de qu'est-ce que c'est être danseuse. Parce que Maggie, ce n'est pas seulement une question en tant qu'artiste, mais il y a toute une question éthique par rapport à tout. Et je pense qu'elle a aussi m'inspiré à faire mon projet à La Marais. Alors, je pense que ces 2 ans que j'ai passés, et après notre longue amitié de plus de 30 ans, m'a fait beaucoup apprendre sur quelle direction je dois aller. Ça m'a beaucoup inspiré.
Mathilde Seigné, est-ce qu'il y a un réalisateur ou peut-être un professeur dans votre formation qui a vraiment marqué votre parcours?
Il y a Michel Galabru quand même, parce qu'il avait un petit cours à Montmartre, hein, qui s'appelait le Conservatoire Maubel, ouais. Et c'était tellement poilant. C'est-à-dire que ce que j'aimais chez Michel Galabru, il dit d'ailleurs quand il témoigne sur moi, il était venu dans une émission de Drucker, je foutais strictement rien, que je passais une scène en un an, c'était épouvantable. Mais justement, il m'embêtait pas, il était pas strict. Il y a Isabelle Nanty chez Florent, que j'ai adoré. Francis Huster aussi. Voilà, dans les profs, mais j'étais pas faite pour les cours, parce que j'étais virée très vite, quoi. Florent, il m'a virée, je sais plus le nom du... Oh, bref, j'oublie. Bon, bref, François Florent, d'ailleurs, je crois qu'il dirigeait. Il m'avait virée assez vite, parce que j'étais pas un élément très, très passionnant.
Émilie.
Lia Rodriguez, comme chaque soir, à chacun de nos invités, nous vous avons demandé de choisir un son qui vous marque. Alors voici ce que vous avez choisi. Alors, vous nous dites que ce n'est pas exactement ce son que vous avez
choisi. Non, j'ai pensé, peut-être j'ai choisi dans mon esprit.
Le
parce
silence.
Parce que je vois des oiseaux et tout. Mais comme je viens d'arriver en France hier, je suis arrivée du Brésil. Et quand on m'a posé cette question, j'ai dit, quel son, c'est le plus fort pour moi, c'est le silence.
Et le silence, quel type de silence précisément? Parce que moi, je suis allée dans votre favela et je crois savoir ce qu'est ce silence.
Oui, parce que les silences, c'est très peuplé, on peut dire. C'est un silence peuplé. Par exemple, dans mon travail en tant que chorégraphe, les dernières 3 pièces, elles sont dans les silences. Mais il n'y a pas de musique, mais il y a le son que les corps produisent et que les silences même produisent. Et dans la favela, comme tu as bien essayé, vu, il n'y a pas de silence possible. Il y a tous les temps un bruit de gens, des musiques. Moi, je travaille là-bas et je suis obligée d'être concentrée avec un bruit autour énorme. Il n'y a pas de silence. Alors, j'ai choisi le silence pour pouvoir faire justement cette contraste.
Vous avez installé votre compagnie et votre école dans un hangar, un ancien atelier de construction de bateaux que vous avez nettoyé, aménagé pour recevoir vos élèves et votre compagnie avec vos propres cachets. Ce projet, vous l'aviez intitulé Résidence Résistance. Qu'est-ce que ça dit de la vision de la danse et de l'apprentissage de cette danse que vous vouliez défendre, Lia Rodriguez?
Je pense que d'abord, c'est le projet, il est développé ces dernières années, surtout en train qu'est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est possible la formation d'un artiste? Et comment faire cette formation? Ce sont les questions autour desquelles je suis toujours occupée. Parce que le Brésil, comme je ne sais pas si vous savez, c'est un pays extrêmement inégal. Et alors, surtout quand on travaille dans une favela, on doit regarder ça et trouver des stratégies pour pouvoir diminuer un tout petit peu cette inégalité. Ce n'est pas du tout évident.
Émilie.
Vous impliquez parfois dans vos projets artistiques des enfants que l'on dit à risque social. Comment est-ce que ces enfants s'imposent à vous?
Oui. D'abord, ce n'est pas des enfants, c'est plutôt des adolescents. Et parce que comme on a cette école, on fait une audition, on reçoit des jeunes de la région et on commence à travailler avec eux. Et si tu vois des histoires de chacun, ce sont des histoires très tragiques, la grande majorité. Et comment on a toujours un accompagnement social, d'un assistante sociale, et on essaye d'être ouverte pour les écouter. Mais je vais vous dire une chose. Je pense que si on met une petite goutte dans un être humain, jeune, qui a eu cette expérience si tragique de vie, c'est incroyable comme ça peut épanouir et aller vers un autre chemin. C'est très petit la goutte et c'est énorme l'océan après.
Vous vouliez venir en Europe pour rencontrer à l'époque la chorégraphe Pina Bausch, que vous connaissiez, parce que vous connaissiez elle depuis l'âge de 23 ans. Qu'est-ce que son travail révélait de la danse que vous vouliez faire? Quel est le spectacle qui vous a marqué?
Parce qu'elle était au Brésil à la fin des années 70, où il faut bien rappeler qu'il n'y avait pas de vidéos, internet, rien. Alors au Brésil, on ne pouvait pas voir des spectacles. Alors quand elle est arrivée à São Paulo, où j'habitais, elle a présenté trois de ses plus importantes pièces. C'est Contact Off, Sacre du Printemps et Café Müller. Et pour moi, que je n'ai jamais vu une chose pareille, j'étais clouée sur la chaise. Je disais, finalement, j'ai vu que la danse peut être ça. Et c'est ça que je veux faire.
Et quelle était la danse que vous faisiez à cette époque-là, vous?
C'était plus, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'était pas la danse théâtre, c'était différent, une autre ligne de façon de mettre les pensées sur scène. J'étais complètement... épanouie, on peut dire ça,
ouais.
Épanouie en voyant ça.
Émilie.
Vous avez aussi créé un festival de danse au Brésil en 1990. C'est le festival Panorama qui présente plutôt les spectacles de la jeune création brésilienne. Autour de quelle idée de la danse vous êtes-vous retrouvée avec ces jeunes danseurs?
Lors de
la première édition, par exemple.
Oui, j'ai créé les festivals parce qu'il n'y avait pas ça à ce moment, au Brésil. Mais j'ai commencé avec la jeune création brésilienne et après, ça s'est développé. Et j'ai présenté même tous les noms de la danse contemporaine française. Jérôme Bel, Xavier Leroy, Magui Marin était là aussi, Boris Charmatz. Alors, c'est devenu un énorme festival international. Il a fêté là ses 21 ans. C'est ça.
Est-ce que dans votre parcours, vous avez été tenté d'arrêter à un moment donné?
Ah oui, je me suis arrêtée quand j'ai eu mes trois enfants. Alors j'ai décidé d'arrêter, je ne savais pas si j'allais continuer, mais comme j'ai eu trois enfants et j'ai allaité chacun deux ans, j'étais six ans en train occupée avec la maternité.
Mathilde, si vous voyez réagir. Vous avez été tentée d'arrêter.
Ouais. Chacun, oui, parce que je militais dans nos associations pour l'allaitement.
J'ai pas fait, j'avoue. Je suis une mauvaise mère, moi j'ai le droit.
Bah oui, c'est le fil.
C'est le cas. Non, j'ai pas pu ça.
Et vous avez été tentée d'arrêter à un moment donné cette carrière?
Ah oui. Tout le temps, moi.
C'est vrai?
Tout le temps, je dis je vais arrêter, j'en peux plus. Non, mais j'aime bien mon métier, j'aime moins le milieu. Voilà. Faut faire avec le milieu.
Mais qu'est-ce que vous lui reprochez?
Bah, il est violent. Ni très violent. Alors, il y a des gens que j'aime, j'ai des amis, mais il est violent le milieu. Donc, il faut se le fader, quoi. Avec toutes ces espèces de cloisonnements.
Cinéma d'auteur, cinéma populaire.
Cinéma populaire, la carte, ceux qui sont chics, qui sont pas chics. Les journalistes, vous aussi, vous tombez aussi dans ce genre de choses.
Pas ici.
Bah oui. Télérama, Le Monde, Libé, tout ça, les Inrecuptibles, ils feront pas les mêmes critiques. Alors, si on campigne, bon, on raconte pas. C'est épouvantable. Mais voilà, donc c'est toujours un peu difficile de se dire qu'on est avant tout une actrice et qu'on est, non, pas une actrice pour certains journaux, une actrice pour d'autres journaux, quoi. Alors on est condamné, moi, à faire Gala et puis d'autres, Télérama. Je trouve que c'est un peu cloisonnant tout ça, donc moi je m'en fiche, maintenant j'ai pris du recul, mais bon, c'est un peu spécial, quoi.
Est-ce que vous, dans votre milieu de chorégraphe, notamment au Brésil, il y a une solidarité entre les artistes? Ou pas vraiment entre, par exemple, votre propre forme de danse, plutôt expérimentale, et puis Grupo Corpo, qui est une danse, on va dire, beaucoup plus spectaculaire. Est-ce qu'il y a quand même des ramifications ou c'est là aussi assez cloisonné?
Je pense que ça dépend de relations. Je suis très amie au directeur du Grupo Corpo et on fait des travaux très différents. Je pense que j'ai beaucoup appris, quand j'ai dirigé les festivals, à voir la différence et pouvoir avoir un dialogue. Mais je suis prise par mon travail à la favela, alors je n'ai pas beaucoup, parce que je comprends très bien ce que tu dis, mais je suis un peu en dehors de ça, parce que j'ai tellement de choses à faire que je dois être là. Et je n'ai pas le temps pour...
Il y a sûrement ça dans le monde de la danse, autant que dans le monde
partout.
De la musique, de tout. Hein.
Oui, partout.
Je danse comme une patate. Je danse plutôt bien en rigolant à la maison. Je suis très tarte. Je suis un animal. Hein.
Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce qu'il y a une sens pour faire ça? Tout ça, ce sont des questions qui n'ont pas de réponse.
Il n'y a qu'une chose que je fais très très bien, c'est Claudette.
Merci à tous nos invités. Mathilde Seignier, Une mère, mais ça sortira en salle mercredi prochain. Lia Rodriguez, Camping, c'est au Centre National de la Danse jusqu'au 26 juin. C'est un workshop. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
La science, disons, qui s'est le plus approchée du concept du plaisir, c'est évidemment actuellement la psychanalyse. Mais la psychanalyse, alors, introduit des nuances entre différents types de plaisir. Et je me suis servi, si vous voulez, d'une opposition entre le plaisir et la jouissance.
Eh bien, c'est la voix de Roland Barthes. Demain, une émission Punctum avec Éric Marty et Valérie Jouve. La désannonce, Adrien ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Benoît Lagan, Manou Farine, Elsa Béranger, Anna Hoguébert et Adrien Nazelli, Journal de la Culture, Zoé Sfez, à la prise de son, Alex Dang et Clément Daté, à la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, et c'est bien.